Si vous avez des questions à poser, c'est le moment, parce que moi j'en ai une quand même. Moi je trouve que cet ours qui est un peu, enfin pas un peu, qui est mythique, cet ours qui se transforme en ours enchaîné ou tiré par un montreur d'ours, comment est-ce qu'on a pu passer aussi facilement, est-ce que c'est volontaire, d'une sorte de culte de l'ours, qui n'est pas prouvé, à un ours carrément enchaîné. J'ai lu quelque part que ça serait une réaction contre l'ours. Autrefois était un culte païen, on le trouve en Grèce, auprès de la déesse Artémis, et progressivement, l'Église aurait cherché à combattre ce mythe païen. Mais je voudrais votre avis.
En tout cas, là, cet ours...
On est au XIIe siècle, là.
Qui est maîtrisé, qui est complètement voilà. Dominé. Il n'est plus, c'est plus un animal sauvage.
Alors, par contre, le début de la domestique, enfin, de la domestication, on s'en parlait, de l'ours brun, non pas Chartres, au début du Vercors, juste à côté de Grenoble, il y a un ours brun, hein, qui a les dents et tout, c'est vraiment un ours brun. Et donc on voit très bien la mandibule qui a été abîmée de côté parce que très certainement c'était tenu par un lien.
Voilà.
Donc certainement, et ce qui date, de l'Asilien, ça date de 8000 à peu près. Donc les montreurs d'ours, enfin on présume que c'est peut-être. Ça remonte peut-être à beaucoup plus vieux que ce qu'on croyait, autour de 8000 ans.
Romain, je crois que l'ours c'est un symbole négatif, c'est-à-dire que l'homme doit maîtriser l'animal comme il maîtrise ses pulsions de mal et ses mauvaises pulsions. Romain.
Oui, pour prêcher le contraire, l'ours est justement un animal qui est très proche de l'homme. C'est le seul animal plantigrade, vraiment plantigrade, comme une. Parce qu'on dit que dans les animaux sont plantigrades, mais ils sont les doigts et un peu une partie, mais pas la totalité de la plante des pieds. Est-ce que là, oui. Et c'est vrai que quand on dépèce un ours, moi j'en ai jamais dépecé, mais après j'ai vu des photos et tout, et qu'on le pendait en plus pour le dépecer, ça ressemble assez étrangement à un squelette, à un homme dépecé. Alors, juste oui. Donc en même temps, c'est peut-être le contraire, un rapprochement, que ce serait pratiquement l'animal le plus proche de l'homme.
Oui, mais dans le bestiaire romain, je crois que c'est un élément négatif.
Ah oui, mais il y a beaucoup de choses négatives dans le bestiaire romain.
Et même souvent, il est figuré, il est déformé, même, il devient presque un monstre.
Ah oui, ça.
Si vous permettez, je vais dire un mot. Un livre que j'ai lu, ça c'est parmi vous l'avez lu.
Monsieur.
C'est un livre de M. Pastoureau.
Oui,
Pastoureau qui parle de ce problème de ce
bestiaire. Bon, c'est le bestiaire.
Et tout l'ours qui est devenu lentement, disons, une banni qui a été.
Oui.
Alors qu'au départ, c'était, dans les pensées anciennes, un peu, vraiment un peu notre égal.
Voilà,
un peu notre égal. Et petit à petit, l'Église a fait en sorte que l'ours devienne un banni et a été remplacé, notamment dans certains moments, par le lion. Ah, le lion, après, je passe tout, dit par hasard, c'est intéressant à voir comment ça a changé au cours du Moyen-Âge qu'on essayait de l'emblancher. Par rapport dans l'Église, on parle au niveau de l'Église.
Mais c'est un livre qui est dans ma bibliothèque et que...
Si vous permettez, je dirai un autre mot dans le sujet, je m'arrête après. Je parlais d'un monsieur que M. Michel-Philippe a pu rencontrer. C'est M. Jean-Dominique Lajoux, qui est un chercheur au CNRS, et qui a à fond sur l'histoire du culte de l'ours. Je vous dis sincèrement, je l'ai amené dans ma grotte, et je lui ai montré que ce n'était pas possible que transporté tous ces ossements dans la grotte. Il n'y a pas de traces humaines dans la grotte. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que ce monsieur, quand il a fait, semble-t-il, beaucoup de temps au niveau de l'Arctique, là-haut, et qu'il a ramené beaucoup de légendes qui sont encore, semble-t-il, plus ou moins en vigueur dans ces peuples de, du nord, de l'Arctique, de la Sibérie notamment. Et il resterait, semble-t-il, encore des légendes qui sont transmises de bouche à oreille. Voilà. Alors, le livre qu'il a, m'a envoyé parle un peu de ça. Mais après, bien sûr, il parle à fond sur le culte. Et là, par contre, on peut être très dubitatif. Excusez-moi. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'émédiaires avec vous.
Non, mais justement, Dominique Lajoux, c'est pareil. C'est la petite histoire, si vous voulez, mais on venait de finir la fouille à la Balmacolor, donc dans les années 96-97, et il m'envoie un courrier en disant je voudrais voir la Balmacolor, etc., justement, pour cette histoire de culte de l'ours fait par les Néandertaliens. Et je lui ai dit que c'était pas possible, parce que la grotte, elle, et puis au début et tout, donc maintenant elle est vraiment protégée. Et, un peu comme la grotte Chauvet, mais il faut à peu près 2 heures pour ouvrir la porte, et il n'y a que 4 personnes qui sont habilitées pour ouvrir. Voilà. Et il a cru que je ne voulais pas. Et puis, lorsque le musée de l'ours a été créé en 2002, l'année d'après, on a fait un grand rassemblement de tous les spécialistes ou gens qui s'intéressaient à l'ours des cavernes et même aux ours fossiles en général. Il y avait 53 spécialistes, il y avait pratiquement tous les spécialistes de l'ours à l'époque, et bien sûr, l'excursion, on peut dire une excursion, c'était la visite de la Balmacolor. Il est monté, il a eu un mal fou d'ailleurs pour monter 600 mètres de dénivelé. Bon, et ben, c'est pareil, même truc, et après, comme ça, j'ai vu la douce et je lui ai dit, et alors Néandertal, vraiment, vous croyez qu'il a monté là-bas des milliers d'ours des cavernes pour les congeler pour leur culte? Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Excusez-moi. Mais je voulais vous poser une question. Vous avez fait allusion tout à l'heure à l'ours des Pyrénées. Je fais partie des anciens qui ont côtoyé Jojo. Peut-être que vous le connaissiez. C'est un ours qui a été trouvé par les enfants des pupilles de la nation de Borse. C'est un ours que j'ai revu 20 ans après, quand même, dans les années 85-86, et il est mort l'année suivante. Or, cet ours-là, il me semblait beaucoup plus grand que les ours bruns. C'était un ours qui était apprivoisé, qui avait été ramené par les enfants après une partie de campagne. Avez-vous entendu parler de cet ours? Parce que ce qui m'a toujours surpris, malgré les efforts de M. Rose, qui était le directeur des pupilles, qui avait voulu conserver cet ours apprivoisé dans l'institution, il n'y a jamais eu de prélèvement de sperme, il n'y a jamais eu de prélèvement de sang. Et enfin, son parc à ours a été. Il a voulu faire un parc, il n'a jamais trouvé les fonds. Et quelques années après, il a récupéré 2 autres ours qui venaient, je crois, de Slovénie. Mais en fait, il n'avait rien à voir. Il y a cet ostracisme par rapport aux ours, me paraît assez surprenant. Ceci d'autant plus qu'il faut reprendre vos arguments sur l'ours. La plupart des églises romaines ont des représentations ursines. Or, ces représentations, il y en a pas mal en Dordogne, il y en a beaucoup aussi par ici. Alors, ces représentations appartenaient à la religion chrétienne que nous ont amené les Goths. Qui représentaient ces ours car ils étaient des médiateurs entre Dieu et les hommes et ont été supplantés effectivement à partir du génocide des ours après le 10e siècle par les catholiques qui ont imposé un autre médiateur qui est le lion. Alors c'est la question, avez-vous des informations sur Jojo? Sur la taille d'abord, hein.
Oui, non, a priori non, parce qu'on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout. Mais globalement, la taille des ours est quelque chose de très variable. Et si on parle de l'ours des Pyrénées, la race pyrénéenne, c'était un ours de petite taille. Donc s'il s'agissait d'un ours qui était d'un montreur d'ours ou autre, qui après serait resté dans les Pyrénées, parce que bon, les ours de Slovénie sont déjà bien plus gros en taille que l'ours brun des Pyrénées. Bon, le grizzly, c'est un ours brun. Le kodiak, c'est un ours brun. Et les tailles sont vraiment très différentes.
En plus, il y a un dimorphisme sexuel très, très important. Les femelles sont en gros deux fois plus petites et pèsent deux fois moins en poids que les mâles. Donc c'est difficile à répondre à votre question. Mais je crois que globalement, les ours des Pyrénées, sous espèce pyrénéenne, étaient de petite taille. Et celles des Alpes étaient encore un peu plus petites. Voilà.
Moi, j'aurais une question. Non. Oui, alors, à la balle de colon, là, cette concentration d'os, là, est-ce qu'ils ont été piégés?
Alors, les concentrations dans les grottes que j'ai montrées?
Oui.
Non, toutes les grottes que j'ai montrées, c'est des grottes d'incarnation. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines grottes qui ont aussi été des pièges naturels. Mais en général, il y a beaucoup moins de vestiges osseux parce qu'il y a quelques animaux qui se font piéger, mais il n'y en a pas.
Non, mais est-ce que ça ne s'est pas effondré qu'ils sont
coincés? Non, ça non. Mais par contre, j'ai dit que les ours allaient jusqu'au plus fond des galeries et tout, là partout où ils pouvaient passer, même nous, des fois, les spéléos. Mais j'avais fait pour le rassemblement, l'Assemblée générale de l'année dernière de la Fédération française de spéléologie à Nantua, là. J'avais fait une communication sur « ils ont fréquenté les grottes avant nous ». Ils. Ah, bien sûr, c'était bourré des cavernes. Et je montrais justement que très souvent, les spéléos croyaient avoir fait de la première. Ouais, c'est ça. Et puis, ah, mince. Il y a des squelettes d'ours, mince, il y a des griffards, etc. Voilà. Mais dans les Pyrénées, j'ai vu avec Fred Marchit précisément, une grotte où, qui s'était effondrée en partie, effectivement, et dès l'entrée, qui est maintenant à la lumière du jour absolue, hein, il y avait une quantité phénoménale d'ossements d'ours des cavernes. Et dans la même Europe, il y a aussi des ossements jusqu'au fond des galeries. Mais ce qui prouve bien qu'ils ne fréquentaient pas que le profond des grottes, ils arrivaient aussi à hiverner pratiquement dans des abysses aux roches. Et j'ai fait la même découverte à Chartreuse, puisque à Chartreuse, il n'y a pas que la Balmacolon non plus, il n'y a pas que dans le Jersey, il y a des temps de grottes. Je les connais, je crois. Enfin, toutes celles qui sont connues, je suis allé les voir. Il y a simplement maintenant un abri sous roche qui sert d'abri pour les bouquetins. Et c'est pareil, là on a fait un sondage officiellement avec l'autorisation du service régional de l'archéologie. Il y a des ossements sur 25-30 cm de profondeur, d'autres moins. Donc, ils allaient hiverner facilement, oui. En général, l'ours des cavernes, plus profondément que ne le faisait l'ours brun. L'ours brun reste globalement plus près des entrées, hein, mais généralement, mais il y a toujours des exceptions. Mais l'ours des cavernes était aussi capable d'hiverner pratiquement juste dans un abri sous roche et non pas dans une grotte profonde.
Michel, est-ce que tu peux me parler de leur alimentation?
Oui. Ah, oui. Parler.
Alors l'alimentation, c'est difficile, tout ça. Ben, le crâne, on va pas dire les dards, mais quand on regarde les dards, de l'ours des cavernes ou de l'ours moins, à part les canines. Hein. Les canines sont. C'est pour ça qu'ils sont classés dans l'ordre des carnivores. Ordre des carnivores. Ne confondons pas ordre et régime alimentaire. Voilà. Ça me paraît important. C'est vrai que les ours actuels mangent des petites bestioles, même des fois des plus grosses. Hein. Mais vous savez, l'histoire qu'on attend qui est à table de moutons qui ont été. C'est parce qu'on est indemnisé, voilà, mais même si c'est des chiens qui les ont traqués, eh bien, comme ça, au moins, ils n'ont pas besoin d'aller sur le marché, ils touchent leur subvention et bien payé. Hein, mieux que si ils avaient vendu. Voilà. Ça, c'est comme ça. Il y en a qui sont c'est Arcus, là, donc je fais ça. Voilà. Donc je suis toujours des chiens. Ah, de l'alimentation, voilà. Mais quand on regarde les dames, autre que les canines, ce sont des dames qui ressemblent étrangement à celles de sangliers, par exemple. Elles sont très larges, avec des petits mamelons et tout, et non pas des cuspides comme le tigre ou comme les félidés, etc. Et ce qui est, rien qu'en voyant ça, on peut dire que c'est un animal qui est essentiellement végétarien. Et c'est vrai que les régimes actuellement des ours brun actuel, que ce soit en Slovénie, que ce soit dans les Pyrénées, que ce soit, c'est entre 60 et 70% de végétaux.
Même pour
le vin. Oui, oui, oui.
sauf le fameux. Et oui, parce que, en plus, c'est ça. Et oui, parce que c'est tellement facile de prendre en photo les ours quand ils attrapent des saumons là-bas, je sais pas trop où là-bas. Donc, toutes les photos qu'on voit des ours, ils sont en train d'attraper des poissons, ils mangent que des poissons, des ours. Ils doivent être intelligents. Hein. Voilà. Et en réalité, c'est pendant quelques jours qu'ils font ça, quand les saumons remontent, mais le reste du temps, ils mangent de tout. C'est vrai qu'au point de vue régime, on ne peut pas dire qu'ils soient herbivores non plus, végétariens non plus. Ils sont omnivores, mais ils sont quand même essentiellement végétariens. Essentiellement. Et nous, attention, alors, par contre, ça c'est important, je René Caverne, beaucoup plus que mon point actuel. Il a les dents encore plus larges et avec beaucoup plus de mamelons, etc. C'est quelque chose de flagrant quand on parle de crâne, on parle de l'autre. Crâne et mandibule.
Et vous, on n'a jamais mangé,
moi ?
Non, mais l'homme n'a jamais.
Ben, l'homme, il est un peu comme l'ours, hein, quand il trouve quelque chose à manger, voilà. Il mange. Hein. Voilà. S'il trouve un ours qui vient de mourir et qui n'est pas encore trop faisandé, je me mets à la place de Cro-Magnon. Hein. L'ours a certainement un peu été chassé aussi, certainement. Mais on a très peu de preuves. On a quelques os d'ours où il y a un silex qui l'a. Bon, mais il y en a quelques-uns, ils sont publiés bien sûr, hein. mais sur des centaines de milliers d'ossements qui existent dans les grottes.
Parce que on parle de ces ours qui étaient mangés, chassés,
oui.
Mais par des princes. Et ça, c'est un moyen, il en parle. C'était pour le prince qui permettait d'affirmer sa puissance.
Oui, et on commençait par les pattes en principe,
oui, voilà, etc.
Il y avait tout un tas de processus. Ben oui, parce que les pattes, parce que ça, elles sont proches de l'homme et tout. Donc.
Et la fenêtre de l'œuf va combien de petits et combien de fois dans sa vie?
J'ai une question locale, elle est brève. La grotte des Fieux, est-ce qu'on y a trouvé la présence de l'ours? Alors peut-être piégé, puisque c'était un lieu de piégeage, ou est-ce qu'il a été, disons, locataire de la grotte?
En tout cas, il n'y a pas de représentation d'ours dans la grotte des Fieux, il n'y a aucune figuration d'ours. Je l'ai étudié en détail, je n'ai pas vu non plus de griffas d'ours. Donc, je pense que la présence de l'ours au pieu est très discrète. Peut-être qu'il a existé dans l'ensemble des ossements trouvés dans les fouilles, mais en tout cas sur les parois, au pieu, sa présence n'est pas discernable. Moi, il y a une chose qui m'étonne dans tout ce que nous venons de voir, c'est l'abondance des ossements d'ours sur les sols et dans les fouilles, et par contre, sa rareté quand même sur les parois. La rareté parmi les figurations, parmi les temps, je ne dis pas les griffards, mais l'ours n'est pas un animal fréquemment représenté par les artistes du paléolithique, par les hommes du paléolithique supérieur. Il n'est pas fréquent. Il est présent dans l'ensemble des thèmes de l'art pariétal, mais ce n'est pas un thème dominant. Par contre, on a par exemple les lions des cavernes, il y en a 92, je crois, à Chauvet.
Hein, oui, mais il y a aussi pas mal d'ours à Chauvet.
Mais
il y en a moins.
Il y en a
alors qu'à Chauvet, on a on a repéré et identifié, je veux dire, 4200 et quelques vestiges osseux, 98% c'est de l'ours des cavernes, le reste c'est un peu de tout, du loup, du mouton, etc. Mais s'il y a tant d'ossements d'ours dans ces grottes-là, qui sont des grottes à hibernation, c'est parce qu'ils venaient régulièrement et tout, ils y restaient des mois et des mois, et que de temps en temps, il y en a un qui mourait, et ça se concerne très bien dans les grottes. Dans les endroits où il n'y a pas de grottes, on dit qu'il n'y a pas eu d'ours. Mais parce qu'ils n'ont pas été conservés. Il y en avait, mais quand ils mouraient, quelques jours, trois semaines après, ils étaient commencés à charogner par les corbeaux, par les renards, et ils ne se sont pas conservés. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. Voilà. Alors que dans les grottes, ça se conserve.
Les lions des cavernes, par exemple, il y en a 23 lions à Ancalou, il y en a 90, etc., plus même à Chauvet. Donc, c'est curieux, le lion qui est un carnivore, lui aussi, et le lion est présent, est bien présent. Il est présent dans toutes les grottes ornées du Quercy, pratiquement, le lion. Donc, l'ours, c'est bizarre.
Alors, pour répondre quand même à la question globalement,
L'ours des cavernes, si on parle de l'ours des cavernes, c'est quand même le cousin germain de l'ours brun. Hein. Pour son éthologie, c'est vrai qu'on se sert beaucoup de la comparaison avec l'ours brun, ce qui paraît normal, au point de vue de sa reproduction. En gros, c'est au début de l'hibernation que l'accouchement avec la mise au bas a lieu. En principe, comme chez l'ours brun, on présume, il devait y avoir deux, trois oursons, mais qui étaient allaités par la mère jusqu'à la sortie au printemps, donc pendant 3-4 mois. Hein. Ce qui fait que beaucoup de jeunes femelles, notamment, à 5 ans, la première mise au bas, sont mortes parce qu'elles n'ont pas pu, elles n'avaient pas suffisamment pris les précautions de se nourrir, de faire des provisions de greffe, etc. À la Valmacolon, on a pratiquement la moitié des femelles qui sont mortes à 5 ans. C'est l'âge de la première mise au bas. Bon, donc en gros, il y avait 2-3 oursons, mais il y en avait facilement un, des fois deux, même, qui mouraient avant même de voir la lumière du jour. Bon, en principe, si on compare avec l'ours brun, la mère reste avec les petits, ou plutôt les petits restent avec la mère pendant tout l'été, etc., et retourne hiberner avec elle. Et c'est qu'au sortir de la deuxième hibernation que là, la femelle leur dit « Oh, oh, oui, hein, bon. » Et du coup, qu'elle s'accouple à nouveau. Donc, en gros, c'est que tous les deux ans qu'il y a une portée de 2-3 oursons, dont en général, il n'y en a qu'un ou deux qui vivent, qui survivent. Ce qui justifie quand même que c'est une espèce animale qui n'a jamais été bien abondante. Ça peut être surprenant avec tout ce que je vous ai montré, comment se marie tout. Mais c'est que ça, les ossements, ça a été accumulé pendant des milliers d'années. Mais il y avait certainement jamais beaucoup d'ours en même temps qui vivaient dans cette région. Hein. Et d'ailleurs, parce qu'il fallait qu'il y ait suffisamment de nourriture, de proie, etc., les prédateurs sont toujours moins nombreux que les nations qui sont mangées.
C'est compensé par la longévité?
Non!
Non,
non, parce que les ours bruns actuels, et les autres ours aussi, l'ours du Tibet, quand ils vivent à 23-24 ans, ça paraît être un maximum. Donc si leur première année de bas c'est à peu près à 5 ans, des fois 4, mais en général 5, 6, tous les 2 ans, ça fait jamais combien, ça fait même pas 10 mises au bas.
Les autres animaux, ils mourraient à l'extérieur.
Pardon ?
Les autres animaux mourraient à l'extérieur. Donc on va les faire on va les faire.
Oui, oui, non, mais je veux dire.
Le lion, il ne fait peut-être pas la récolte.
Des lions, il y en a qui sont morts dans des grottes, il y en a, etc. Oui, mais enfin, moi je pense qu'il y avait plus de lions que dans des cavernes en même temps sur les mêmes territoires. Mais on les retrouve moins parce que quand ils ont été piégés dans des grottes ou autres, on en retrouve des vestiges. Bon, il y a celui de Souillard qui est piégé. D'accord ? Mais la grande différence, c'est que les ours des cavernes hivernaient pendant des mois et des mois, et il y en a qui mouraient, voilà. Alors que les lions vivaient essentiellement à l'extérieur.
Écoutez, nous aurons une pensée pour notre ours des cavernes. Nous venons de découvrir que c'était une femelle. Grâce à monsieur, c'est sûr. Je ne sais pas.
C'est un ours des cavernes, c'est sûr. Parce que
Donc c'est sûrement c'est un ours des cavernes et c'est une dame. Donc moi, pour conclure, parce qu'il est vraiment quand même presque 11h du soir, on va vous inviter à boire un pot et puis dire que l'ours, c'est une conclusion toute personnelle, mais l'ours que les enfants adorent, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a tenu tant à avoir cette conférence. Quand on voyait les petits à qui on disait « Tiens, c'est 3 mètres de haut, il était presque aussi... » La salle fait 3 mètres 50 en gros. Vous voyez un peu la hauteur. Donc, ils étaient émerveillés et c'est la raison pour laquelle nous vous remercions infiniment. Nous avons pu faire cette conférence. Et disons que l'ours s'est racheté, entre guillemets, avec Teddy Bear. Hein, c'est pour ça que tous les enfants aiment les petits ours. Voilà.
Alors, mais quand même, les oursons, hein, les fameux oursons, est-ce que vous savez que ça, c'est jamais qu'en 1910 que les oursons ont été lancés sur le marché. 1910. Avant, ça n'existait pas.
Ah, merci à Roosevelt. de choses qu'on pourrait encore dire, mais là, je crois qu'il est 11h du soir. Alors, on vous invite à prendre des boissons et un superbe dessert de gâteau préparé par Catherine Espé. Merci.